Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous venons de commencer le chapitre 17 de Saint-Luc sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église des chapitres 16 à 20. À la page 7, nous avons expliqué la dernière fois le premier et le deuxième verset du chapitre 17 de Saint-Luc, donc qui parle des conséquences du scandale. J'ai déjà expliqué, donc je n'y reviens pas. Rappelez-vous la gravité de ce péché de scandale, provoquer le péché chez l'autre, être responsable du péché d'autrui, pousser l'autre au péché. C'est une chose de se damner, si on est une autre encore bien plus grave, de damner les autres. Donc avançons versets 3 et 4 de ce chapitre 17. Prenez garde à vous, si votre frère a péché contre vous, reprenez-le, et s'il se repent, pardonnez-lui. S'il pêche contre vous, cette fois dans un jour, que cette fois dans un jour, il revienne à vous en disant « Je me repens, pardonne-lui. » C'est une phrase à bien comprendre. Souvent, on pose cette question au confessionnal, monsieur l'abbé, est-ce qu'il faut, combien de fois est-ce que le prêtre peut pardonner un pécheur qui retombe régulièrement? Et je réponds toujours, justement, en citant ce texte, et d'autres textes parallèles. C'est une fois Saint Pierre lui-même qui a posé à peu près la même question au bon Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, en lui demandant, mais combien de fois dois-je pardonner cette fois? Et notre Seigneur Jésus-Christ de répondre, non, Pierre, pas cette fois, vous devez pardonner 70 fois cette fois. Le 7 représente le chiffre de la totalité. Donc, même si une personne tombe tous les jours, et qu'il regrette sa faute, attention, et qu'il regrette sa faute, sans contrition, sans regret de son péché, il ne peut pas y avoir d'absolution, c'est impossible. Donc il faut qu'il regrette sa faute, première condition, ce qu'on appelle la contrition. N'oubliez pas qu'il y a deux conditions pour une contrition. Il faut d'abord la douleur de la faute et un ferme propos de ne pas recommencer. Dans la pratique, c'est de prendre les dispositions qui doivent être prises pour être sûr de ne pas retomber avec la grâce du bon Dieu. Même si je sais que je risque de retomber, imaginez quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, je regrette bien le péché que je viens de commettre, je me suis confessé hier et là je suis retombé, je regrette mon péché du fond du cœur et je vais encore essayer un peu plus de ne pas retomber, vous prenez disposition pour ne pas retomber, eh bien il faut pardonner. Le prêtre doit pardonner dans ce cas-là, même si la personne me dit, monsieur l'abbé, je me connais, je suis très faible, je sais que je risque de retomber demain. Eh bien, demain, revenez vous confesser. Vous voyez ? Quand j'étais dans les écoles, pendant un certain temps, j'étais professeur en école, dans la fraternité Saint-Pédis, le matin, je confessais, je l'avais toujours dit aux enfants dont je m'occupais, c'était surtout aux grands adolescents, aux adolescents tout simplement, entre 13, 14 et 18, 20 ans, à cette époque, c'est l'époque de la vie où on a beaucoup de tentations, surtout quand la pureté, je leur disais, vous pouvez venir me voir même tard le soir, jusqu'à l'extinction des feux dans mon bureau, je suis à votre disposition pour vous confesser, ou le matin, si je ne dis pas ma messe le matin, vous pouvez venir pendant que je suis en train de dire mon bréviaire et je vous confesserai. Il y en a qui venaient régulièrement, parfois tous les jours. Eh bien, il fallait confesser tous les jours. Alors, ce chiffre 7 représente la totalité, c'est l'interprétation de Saint Augustin. 7 représente la totalité. Rappelez-vous l'explication qu'il donne. J'ai déjà souvent donné cette explication pour le chiffre de la bête, 666. En fait, c'est 6 qui représente l'imperfection, puisque 7 représente la totalité ou la perfection, un peu comme vous voulez, on peut y avoir les deux interprétations possibles. Soit 7 représente l'imperfection, soit ça représente la totalité. Là, vraisemblablement, ça représente la totalité. 3 représente la totalité, plus exactement, 7 représente la perfection, 3 la totalité, donc 6 qui représente 7 moins 1, c'est égal l'imperfection. Donc 3 fois 6, 6, 6, 6 représente la totalité de l'imperfection, c'est le symbole du démon. En précisant le nombre 7, dit Saint Bède le Vénérable, Christ refuse de limiter le pardon et commande de pardonner les péchés, toujours pardonner le pénitent, car le chiffre 7 représente la totalité d'une chose. D'où cette importance de la disponibilité pour le prêtre, la disponibilité des confessions. Malheur aux prêtres, j'ai connu des prêtres comme ça qui donnaient des heures. Vous pouvez venir vous confesser simplement telle heure à telle heure. Attendez, attendez, il faut être libre, il faut être disponible pour les confessions. C'est très important. Quand j'étais en prieuré, même ici, aux gens qui viennent à la messe en semaine, toujours une ou deux personnes qui viennent à la messe tous les matins, à la messe tous les matins ici, un servant, puis quelqu'un qui vient, une autre personne qui vient à la messe tous les matins, je dis aux gens qui viennent à la messe ici le dimanche, et je dis aussi à ceux qui m'écoutent sur Internet, ici, la porte est ouverte tout le temps pour les confessions. Même quand j'étais surtout quand j'étais en ville, en prieuré en ville, je disais aux gens, vous pouvez téléphoner à n'importe quelle heure. Je disais même au milieu de la nuit, si c'est vraiment nécessaire, passez un coup de téléphone. Je dis sauf aux dames. Une dame seule, je ne la confesse pas au milieu de la nuit. Mais un homme qui me téléphone à 11 h du soir pour me dire, monsieur l'abbé, est-ce que je pourrais me confesser, je le confesse. Et si la jeune fille vient avec un homme, par exemple, à ce moment-là, je confesse tous les deux. C'est très important cette disponibilité. Et c'est un des drames de l'Église moderne. Beaucoup de prêtres modernes, l'Église de Vatican II, mais il y a parfois, même dans l'Église de Vatican II, des prêtres ou des soi-disant prêtres, parce que malheureusement, la plupart des cas, ils ne le sont pas. Et parfois, il y a des prêtres, ou qui ne sont pas prêtres, mais qui se croient prêtres, ou qui sont vraiment prêtres, parce qu'ils ont été ordonnés avant les réformes de 68, qui me disent, monsieur l'abbé, moi je confesse pratiquement plus. Voilà, quelques confessions avant Pâques, et puis c'est tout. On confesse plus. Les gens ne se confessent plus. C'est ça qui est terrible dans l'Église moderne. Et c'est une des causes de l'écroulement de l'Église de Vatican II, c'est le fait que les gens ne se confessent plus. Comme il y a de plus en plus de tentations dans le monde moderne, donc mathématiquement, il y a de plus en plus de péchés, il y a de moins en moins de confessions. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent dans le péché mortel. C'est mathématique. Et malheureusement, ça veut aussi dire que, comme il y a les gens qui viennent, ils vont encore à la messe le dimanche, communient pratiquement tous, et bien donc c'est mathématique aussi, c'est la multiplication des communions sacrilèges. Donc ce nombre, dit Saint Ambroise, est également invoqué car Dieu se reposa le septième jour. Après le septième jour du monde, le repos éternel nous est promis. Comme les maux de ce monde cesseront alors, ainsi la gravité de la punition sera diminuée. Donc pardonnons, pardonnons en tant que prêtre. Le prêtre doit pardonner au confessionnal à tous les pécheurs qui sont pénitents et qui prennent les moyens de ne pas recommencer. Attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui consiste à ou dans une déformation de une fausse charité qui considérait que je pardonne systématiquement. Moi, j'ai connu des prêtres comme ça, c'est épouvantable, qui ne posaient jamais de questions et qui systématiquement donnaient l'absolution sans même poser de questions. J'ai connu un prêtre qui a, malheureusement, Dieu ait son âme, il est mort maintenant, mais c'était épouvantable parce que il posait jamais de questions, il confessait, il avait beaucoup de confessions, donc il partait du principe qu'il fallait qu'il confesse tout le monde avant le dimanche avant la messe. Alors, chaque confession, ça prenait une minute. C'était vraiment une minute. Parce qu'il écoutait les péchés, et puis il disait pas de pénitence, vous direz Saint, je vous Samaria, puis donner l'absolution. Jamais une question. Attention, pour pouvoir donner l'absolution, surtout quand il s'agit de péché mortel, il faut vérifier que la personne prend les moyens pour ne pas recommencer. Sinon, on peut s'exposer à profaner le sacrement de la Sainte Eucharistie. Imaginez quelqu'un qui, c'est un exemple que je donne souvent parce que c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Imaginez quelqu'un qui me dise, ben voilà, monsieur l'abbé, j'ai commis une faute d'impureté, par exemple. Bon, il faut bien poser un peu quelques questions, déjà, seul ou avec d'autres, avec quelqu'un. Est-ce que c'est une personne que vous voyez régulièrement? Est-ce que vous êtes marié, célibataire? Ben, je suis célibataire, mais j'ai une petite amie, elle vient coucher chez moi dans mon appartement tous les samedis, puis on fait des bêtises tous les samedis soirs. Est-ce que vous regrettez? Oui, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que vous comptez faire samedi prochain? Ben, monsieur l'abbé, elle va venir aussi. Et vous allez de nouveau la recevoir dans votre appartement seule? Ben oui, monsieur l'abbé, on fait ça depuis plusieurs années. On ne peut pas se marier maintenant, alors. Bon, ben, elle vient tous les samedis. Est-ce que vous comptez, le samedi prochain, changer cette façon d'agir et arrêter de la recevoir dans votre appartement? Ah, ben non, monsieur l'abbé, parce qu'elle ne sait pas où aller le samedi, donc je la prends chez moi. Ben, monsieur, je ne peux pas vous donner l'absolution. Parce que vous gardez une occasion prochaine volontaire de pécher. Et attention, n'oublions pas, c'est vrai que je vous ai déjà souvent expliqué que si le prêtre, dans un cas comme cela, disait, bon, ben tant pis, il fait un acte de bonne volonté en faisant se confesser, je sais bien qu'il va repêcher samedi prochain, bon, mais je lui donne l'absolution quand même. L'absolution est invalide, parce que la personne qui se confesse n'a pas le ferme propos de ne pas recommencer, prend pas les moyens d'éviter une occasion prochaine volontaire de péché grave, mais le prêtre commet une faute grave en donnant l'absolution à quelqu'un qui n'est pas disposé à recevoir l'absolution, attention. Rappelez-vous cette phrase de saint Alphonse de Ligori, le patron des confesseurs, qui dit bien que le bon Dieu nous demandera des comptes sur les péchés, et sur les confessions que le prêtre a entendues, pas sur les confessions qui ont attendu. Voyez? Il vaut mieux faire confesser 10 personnes avant la messe, correctement, faire des bonnes confessions, plutôt que d'en confesser 50, d'en confesser 50 et d'avoir une trentaine ou une quarantaine de confessions sacrilèges. L'idéal, évidemment, moi j'ai eu ça dans une ou deux paroisses, c'était magnifique, quand il pouvait y avoir, c'est un luxe, c'est vraiment extraordinaire, quand il y avait deux prêtres dans la même paroisse le dimanche. Donc un pouvait célébrer la messe et prêcher, et l'autre pouvait se mettre au confessionnal. J'ai eu ça en Prout à Nantes, c'était extraordinaire, parce qu'on pouvait, à la grand-messe rue d'Allonville, eh bien, un des deux prêtres célébrait la messe et l'autre prêtre confessait pendant toute la messe. Et on confessait non-stop, on commençait à confesser en général presque 3 quarts d'heure, une demi-heure avant la messe, et on confessait pendant toute la messe. Et l'autre prêtre célébrait la messe, on pouvait confesser pendant toute la messe, non-stop. Et ça permettait à vraiment tout le monde de se confesser, c'était magnifique. Malheureusement, c'est un luxe, parce que dans la plupart des cas, il n'y a qu'un seul prêtre. Et donc, eh bien. Il faut à ce moment-là que le prêtre, le curé de la paroisse, ou le prêtre qui est en charge de cette paroisse, ou de cette messe, donne justement des heures de confession à des heures où les gens peuvent venir. Vous voyez? Je me rappelle à Lille, il y avait quelqu'un comme ça qui venait se confesser. Le seul moment où il était libre pour se confesser en semaine, c'était entre midi et 1 heure, parce que c'était son heure de battement, il travaillait, je sais ce qu'il faisait comme travail, il était libre de midi à 1 heure. Et donc il venait se confesser à midi et demi souvent, parce qu'il ne pouvait pas venir se confesser dimanche, il travaillait, donc il venait se confesser en semaine. Et mes jeunes prêtres qui étaient avec moi, j'étais prieur à l'époque, râlaient parce qu'il venait au moment du repas. Au moment du repas, il était à table, et puis il venait sonner, ah monsieur l'abbé, il ne faut pas le confesser maintenant, il est en train de manger. Et je dis, je m'excuse, la confession c'est important. Je devais laisser terminer le repas tranquillement, j'allais confesser, ça prenait 5 minutes, je confessais la personne, et je venais me finir mon repas. Mais c'est capital, une confession c'est bien plus important qu'un plat. Un plat de viande ou un plat, on ne va pas mourir de faim parce que on arrête le repas pendant 5 minutes, vous voyez? Donc attention à ces responsabilités. Et aussi, non seulement la responsabilité du prêtre d'entendre les confessions, mais aussi les responsabilités des parents pour favoriser les confessions des enfants et pas poser certaines questions. Vous voyez, imaginez un adolescent dans une famille qui dise à son père en semaine, papa, j'aurais besoin de me confesser. Bien, le père doit vraiment faire tout ce qu'il peut pour dire, bon, ben écoute, on va téléphoner à ton confesseur habituel, et demander quand est-ce qu'il peut te voir, que je sois libre pour pouvoir t'accompagner un coup de voiture, on va aller se confesser, en même temps je me confesserai moi-même d'ailleurs, et puis on y va tous les deux. Et le père doit faire très attention dans un cas comme ça, pas poser de questions, hein, parce que là on touche au jardin secret, un endroit dans lequel il n'a pas le droit de pénétrer. Il ne faut pas qu'il dise à son fils, comment tu t'es déjà confessé dimanche, pourquoi tu veux te confesser aujourd'hui, on est jeudi, pourquoi tu veux te confesser, qu'est-ce que tu as fait? Ah, attention, il n'a pas le droit de poser ces questions. Il va simplement dire, mon fils, on va aller se confesser. Et je vais t'accompagner pour que tu puisses te confesser. Et malheur aux parents qui prennent pas ça au sérieux, disent, oh, j'ai pas le temps, écoute, je vais pas prendre sur mon temps pour aller te confesser, j'ai pas le temps, on a d'autres choses à faire. Et puis, attention, si votre enfant reste en état de péché mortel à cause de vous, c'est vous qui prenez la responsabilité, alors tombe dans le péché de scandale, attention. Versets 5 et 6 du chapitre 17 de Saint Luc. Alors les apôtres dirent au Seigneur, augmentez-nous la foi. Et le Seigneur leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénevé, vous direz à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. La vertu de foi. Comme on a besoin d'augmenter en nous cette vertu de foi, surtout aujourd'hui. Donc les disciples disent, les pères qui entendent notre Seigneur discourir sur certains points, sur certains devoirs exigeants, comme la pauvreté ou celui d'éviter de scandaliser, lui demandent d'augmenter leur foi pour qu'ils puissent suivre cette pauvreté, la foi et l'espérance étant nécessaires pour y arriver, que par cette même foi ils puissent se garder du scandale. Donc pour éviter du péché contre la charité, puisque c'est le péché le plus grave, c'est le péché contre la charité, pour pouvoir garder cette charité brûlante, ben, il faut la foi. Et l'espérance. Il faut la foi et l'espérance. On ne peut pas avoir la vertu de charité sans avoir la vertu de foi et l'espérance. C'est impossible. L'inverse est par contre vrai. Attention, j'ai déjà expliqué ça souvent. Quelqu'un peut avoir la foi et l'espérance sans avoir la vertu de charité. Il y a à ce moment-là ce qu'on appelle une foi, une espérance informe. C'est-à-dire une foi, une espérance qui n'est plus formée par la charité. Elle est moribonde, si vous voulez, mais elle est encore là. Heureusement d'ailleurs, imaginez la catastrophe si à chaque fois qu'on commettait un péché mortel, on perdait non seulement la charité, mais également la foi. On ne pourrait même plus aller se confesser. Est-ce qu'il faut la foi pour aller se confesser? Personne ne peut aller se confesser sans la foi, c'est impossible. Comment voulez-vous aller vous confesser si vous n'avez pas la foi que la personne à qui vous vous confessez est prêtre, vraiment prêtre, donc a reçu de Dieu le pouvoir de pardonner les péchés, et sans croire en même temps que Dieu, dans sa miséricorde, me donne la grâce pour obtenir ce pardon des péchés. Donc attention à cette vertu de charité qui est la reine de toutes les vertus, de même que la vertu de prudence est la reine des vertus cardinales, la vertu de charité est la reine des vertus théologales, à tel point qu'il est de foi catholique que toute personne qui meurt avec la vertu de charité est sûre d'aller au ciel. Bon, il va peut-être passer au purgatoire, mais il va au ciel, il est sûr de se sauver. Par contre, quelqu'un qui n'a pas la vertu de charité au moment de la mort, même s'il a la foi et l'espérance, ça ne lui suffit pas pour être sauvé. Il est de foi également que quelqu'un qui n'a pas la vertu de charité le jour au moment de sa mort, c'est-à-dire qu'il est en état de péché mortel, il tombe en enfer. Hein. Voilà pour tout le monde, y compris pour moi. Saint Jean Chrysostome, commentaire donc sur ce verset 6. Donc. Notre Seigneur donc qui dit, si vous avez la foi, vous donnerez un ordre à ce mûrier, à cet arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer, il le fera. Et donc Saint Jean Chrysostome explique que le mûrier, dont il est parlé ici, peut être comparé au diable. Car de même que ses feuilles nourrissent certains vers, ainsi le démon, par les imaginations qui procèdent de lui, nourrit en nous un vers qui ne meurt jamais. Mais la foi peut arracher ce mûrier dans nos âmes, une faute d'orthographe, il faut que je corrige. La foi peut arracher ce mûrier de nos âmes et le jeter dans la mer. Vous savez que les feuilles de mûrier sont utilisées pour nourrir les vers à soie. Les anciens connaissaient bien ça. Et donc, de même que la feuille de mûrier nourrit le vers à soie, qui va dévorer les feuilles de mûrier pour faire son cocon et donner la soie à l'homme, de la même façon, bien, si je vis dans le péché mortel, eh bien je vais avoir en moi, en mon cœur, un ver qui va me dévorer tout vif. Et ce ver, c'est le ver du démon. Donc, alors soit on compare le mûrier à la feuille qui est consommée, qui est comparée au diable, soit le ver lui-même et représente le diable. Mais de même que la foi peut arracher ce mûrier de nos âmes et le jeter dans la mer, c'est-à-dire arracher le démon de mon âme et rejeter au loin le démon, de la même façon, la confession peut me rendre l'état de grâce, me rendre la charité et jeter le péché loin de moi. Alors, allégoriquement, en langue grecque, le mûrier est appelé folie. Bon, car il est le plus sage des arbres. Pourquoi? Parce que le mûrier, pour d'autres pères de l'Église, il n'y a pas unanimité des pères, chaque père, beaucoup de pères ont des idées différentes sur certaines choses. Donc le mûrier représente également l'évangile de la croix du Christ. Et la croix du Christ est une folie pour les gentils. Donc en langue grecque, pour cela c'est l'image qui est utilisée ici, en langue grecque le mûrier est appelé folie car il est le plus sage des arbres. Il ne fait pas sortir ses feuilles avant que le dernier gel ne soit passé pour qu'elles ne soient pas détruites par le froid. Donc le mûrier symbolise l'évangile de la croix du Christ, qui semble être une folie pour les gentils, mais qui pour les fidèles est le pouvoir et la sagesse de Dieu. Pour les gens du monde, nous sommes des fous. Et pour nous catholiques, les gens du monde sont des fous. Rappelez-vous ce texte qu'on a eu il y a quelque temps, l'évangile, ou en épître, je ne sais plus, je crois que c'était un évangile de Saint Jean. Il est dit, le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse. Il faut bien expliquer cette dichotomie. Il y a vraiment deux mondes différents. Soit on est pour notre Seigneur Jésus-Christ, et à ce moment-là, on sera dans la tristesse ici-bas, mais dans la joie après. Soit on est pour le monde, pour les trois concupiscences, soit on accepte les trois concupiscences dans notre âme, on sera dans la joie ici-bas, mais dans la tristesse après la mort, parce que ce sera l'enfer si je ne me convertis pas avant de mourir. Donc les fruits de cet arbre seront comme les blessures du Christ sur la croix qui vont nourrir les nations. Donc de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a le cœur ouvert sur la croix, par son sang qui découle de son sacré cœur, va nous nourrir pour nous permettre de retrouver l'état de grâce. D'où la nécessité de la foi. Et c'est un peu le drame aujourd'hui. C'est que les gens n'ont pas simplement, la plupart des gens autour de nous n'ont pas simplement perdu la charité, ils ont aussi perdu la foi. Alors, où leur foi est tellement faible que pratiquement elle n'est plus là. Et s'il n'y a pas la foi, eh bien, on ne peut pas avoir le retour de la charité, parce qu'encore une fois, la charité ne peut pas exister sans la foi. Donc, si quelqu'un perd la charité et la foi, il n'y a pas de retour possible, sauf une intervention directe du bon Dieu. L'intervention directe du bon Dieu. C'est ça le drame aujourd'hui, quand on parle à des gens qui ont encore un tout petit peu se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur vie, qu'il faudrait qu'ils mettent le bon Dieu dans leur vie, mais quand on parle avec eux en privé, ils reconnaissent, ils nous le disent, monsieur l'abbé, j'ai plus la foi. Alors comment voulez-vous ramener la charité dans cette âme s'il n'y a plus la foi? Il faut d'abord mettre la foi. Or, la foi, elle se perd. Pourquoi? Elle se perd de deux façons. Elle se perd soit parce que je suis constamment en train de discuter avec des gens qui n'ont pas la foi, jouer avec le feu, soit tout simplement parce que j'étudie plus. Si j'étudie plus mon catéchisme, comment voulez-vous que les gens conservent la foi? C'est la raison pour laquelle l'Église interdit, attention, il ne faut pas oublier ça, l'Église interdit à un prêtre de baptiser un enfant, s'il n'y a pas la certitude que l'enfant va être élevé dans sa foi, parce que le baptême va donner la foi, l'espérance et la charité. Mais si, bon, au début, quand le bébé est tout petit, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'a pas encore l'usage de raison, il ne va pas perdre ni la foi, ni l'espérance, ni la charité. Mais une fois qu'il grandit, qu'il devient un enfant, puis un adolescent, s'il ne reçoit pas une éducation catholique, comment il va faire pour garder cette foi, cette espérance, cette charité? Il va tout perdre. Il va commencer par perdre la charité très vite, et malheureusement la foi, si elle n'est pas éduquée. C'est comme, si vous voulez, une bougie ou une lampe à huile qui n'est pas alimentée en huile. Un bébé qui vient d'être baptisé, c'est une petite lampe à huile avec le réservoir plein d'huile, mais si vous ne remplissez pas le réservoir régulièrement, ben, la lampe va finir par s'éteindre parce qu'il n'y a plus d'huile dans le réservoir. Bon, et c'est pareil pour notre foi, c'est le drame du monde moderne, c'est que la charité est morte, mais la foi aussi. La foi aussi. Parfois, nos fidèles ont du mal à comprendre ça. J'ai eu un de mes fidèles qui était comme ça, il s'est complètement découragé, le pauvre, parce que il me disait, je le connaissais bien, il me disait, il est brave comme tout, mais il me disait, oui, c'est magnifique, vous arrivez dans ce petit village de Padiès, vous allez voir, tout le monde va se convertir, tous les gens du Tarn et de l'Aveyron, tout proche de l'Aveyron, tous les gens du coin vont savoir qu'il y a un prêtre traditionnaliste en soutane, donc il va y avoir plein de monde, on va pouvoir construire une église. Et j'ai dû lui faire comprendre, mais vous rêvez! Vous rêvez! Ah, mais il y a des croix partout dans la campagne, ici, il n'y a pas un croisement entre deux chemins où il n'y a pas une croix. Oui, les croix, elles datent du 19e siècle, ou du début du 20e. Mais malheureusement, depuis le 19e siècle et le début du 20e siècle, l'apostasie des nations est passée là-dessus, et ben, c'est fini, il n'y a plus de foi. Les croix sont encore là, il n'y a plus la foi est morte. Et je vois... Les braves paysans qui sont ici, pourtant ils sont braves, sur le plan humain, ils ont tous perdu leur foi. Tous. qu'ils soient de droite comme de gauche, ils ont tous perdu la foi. Ils ne pratiquent plus du tout. Et quand on ne pratique plus du tout pendant des années et des années, on n'est plus un catholique et un pratiquant, on est devenu un païen. Bon, on est encore catholique par le baptême, c'est sûr, c'est ça le drame d'ailleurs. C'est qu'ils sont catholiques par le baptême, donc le jour où ils vont mourir, ils vont être jugés comme catholiques par Dieu, avec donc des responsabilités, des devoirs, des responsabilités, des devoirs que n'a pas de la même façon quelqu'un qui n'a pas été baptisé, mais lui, il a été baptisé, cette personne a été baptisée, même si elle a perdu la foi, elle est jugée comme catholique, puisque le baptême est un ne peut pas être enlevé. Le caractère du baptême est indélébile, attention. C'est voilà pour le sacrement de l'ordre, le sacrement de la confirmation, le sacrement du baptême. Le caractère qui est donné par ces trois sacrements, caractère de ministre de Dieu pour l'ordre, de soldat de Dieu pour la confirmation et d'enfant de Dieu par le baptême, ne peut pas être ôté. Donc un enfant qui est baptisé, il devient enfant de Dieu. Un adulte qui a perdu la foi, qui est baptisé, il est toujours enfant de Dieu, attention. Mais il a abandonné son père. Il a abandonné son père. On peut peut-être dans certains cas excuser au moins en partie des gens qui n'ont jamais été baptisés, qui n'ont jamais entendu parler du bon Dieu. Ils ne savent pas qu'il existe. Bon, le bon Dieu va en tenir compte quand il va les juger quand même. Mais par contre, quelqu'un qui est baptisé, attention, il augmente ses responsabilités. C'est pour ça qu'un prêtre n'a pas le droit de baptiser un enfant s'il n'a pas une certitude au moins relative que l'enfant va recevoir une éducation catholique. Hein? Donc cet arbre déraciné, disent certains pères, c'est en bas de la page 7, cet arbre déraciné représente... Non, cet arbre est déraciné par l'infidélité des Juifs et planté dans la mer des gentils. Donc, l'arbre se déracine et va se planter ailleurs. Bon, c'est un beau symbole de la substitution. J'ai souvent parlé, tous les pères d'Église en parlent. Cette substitution du peuple élu. Le peuple élu dans l'Ancien Testament, c'était le peuple juif, bien sûr, qui a été préparé pendant 5000 ans. Depuis Abraham, même avant, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a tous les prophètes qui sont venus pour préparer ce peuple élu. Malheureusement, le peuple élu, dans son immense majorité, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, a demandé la mort du Christ. Et puis, quelques-uns sont convertis, malheureusement très peu. Et donc, du coup, il y a une substitution, l'arbre s'est arraché, est allé se planter dans une autre terre. Cette autre terre dans laquelle l'arbre s'est planté, c'est la terre catholique. Donc attention, n'oublions pas, j'en ai souvent parlé, mais j'insiste souvent parce que beaucoup de fidèles comprennent mal ce point-là, c'est que si l'arbre a été déplanté pour être planté ailleurs, le bon Dieu peut faire la même chose avec nous. Si je suis infidèle, le bon Dieu peut prendre la foi dans mon âme, l'enlever et puis aller la replanter dans un autre, chez quelqu'un d'autre. Hein. Heureusement, c'est relativement rare, mais j'ai connu des cas comme ça, hélas, pas beaucoup. J'en ai connu quelques-uns. Ces dernières années, j'ai dû baptiser à peu près 70 adultes, quelque chose comme ça, depuis une dizaine d'années à peu près. Je dirais à peu près 70 adultes, et il y en a deux qui n'ont pas persévéré, à ma connaissance. Deux qui n'ont pas persévéré. Et une personne, entre autres, qui avait fait une retraite avec moi, une protestante, qui avait fait une bonne retraite, donc... Il a demandé l'apostasie et la foi protestante à la fin de la retraite. J'ai accepté. Bon, maintenant, avec du recul, je pense que j'aurais dû attendre. Bon, mais vu qu'elle avait fait une bonne retraite, j'ai accepté je l'ai rebaptisé, je crois, sous condition, si mes souvenirs sont exacts. Mais elle n'a pas coupé avec ses amis protestants. Et malheureusement, elle est repartie au protestantisme, à tel point qu'un jour, j'ai reçu une lettre d'elle en me demandant à ce que qu'elle soit enlevée, effacée des registres de baptême. Parce qu'elle était repartie au protestantisme. Alors, j'en ai pleuré ce jour-là. Et je lui ai répondu en lui disant, c'est impossible, je ne peux pas, parce que vous êtes baptisé maintenant catholique, donc vous avez un caractère, vous serez jugé comme catholique apostate, mais vous êtes toujours catholique, et la seule chose que je peux faire, c'est sur le registre, mettre la notation, officiellement apostasier la foi catholique, telle date, c'est ce que j'ai fait. Donc, je reprends cette belle phrase des pères, cet arbre, donc ce mûrier, qui se déracine sur ordre du Seigneur et qui va se planter ailleurs, cet arbre qui est déraciné, il est déraciné par l'infidélité des Juifs et planté dans la mer des gentils, dans le cœur des gentils. Alors les pères précisent, les feuilles du mûrier offertes au serpent aux démons donc, lui apportèrent la mort, car la parole de la croix détruit toutes les choses mauvaises et venimeuses qui se trouvent dans l'âme. Donc, il faut demander cette grâce de la foi. Et beaucoup de gens aussi perdent la foi, parce que je vous l'ai dit, parce que, d'abord parce que, je pense que c'est deux principales raisons, je viens d'expliquer, les mauvaises compagnies, ils sont trop en train de discuter avec des gens qui n'ont pas la foi, finissent par la perdre, et d'autre part, ils étudient plus, il faut étudier son catéchisme. Je pense que les catholiques qui m'écoutent là sur Internet doivent comprendre leur obligation d'étudier, je dirais un minimum c'est 1 heure par semaine, hein. Étudier et commencer par étudier le catéchisme. Pour ceux qui connaissent mal leur catéchisme et qui m'écoutent sur Internet, bon, il est impossible d'arriver à savoir, je n'ai pas la technique, mais la connaissance en informatique pour savoir combien de personnes écoutent ce cours sur Internet, je ne sais pas. Bon, je connais combien de personnes se connectent au site, mais quels sont ceux qui écoutent les cours? Je pense que la plupart des personnes qui se connectent au site se connectent soit pour regarder la vidéo de la messe, que j'ai tous les dimanches matin, soit pour écouter les sermons qui sont en audio. Il y en a, la proportion de ces gens-là qui se connectent pour écouter le cours d'exégèse, ou qui écoutent aussi le cours d'exégèse en plus du reste, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas très nombreux. Hein. Si vous connaissez mal votre foi, étudiez, hein, c'est pour ça que j'ai placé sur le cours sur le site d'Ave Marie un cours complet de catéchisme. Il y a 110 cours plus, je crois, 7 cours de préparation au mariage, donc ça fait 117 cours qui couvrent les quatre parties de la foi catholique. Donc, ce qu'il faut croire, le credo, ce qu'il faut faire, les commandements, ce qu'il faut désirer, la prière, et les moyens de tout mettre en pratique, les sacrements. Bon, il y a un polycopie de 110 pages avec tout ça, donc travaillez, étudiez. Je pense que quelqu'un qui prend pas un minimum de temps pour étudier, eh bien, il va finir par perdre la foi. Je crois que le minimum, ça me semble être 1 heure par semaine, étudier. Il faut prier, c'est sûr qu'il faut prier. La prière ne suffit pas, il faut aussi l'étude. Il faut nourrir notre intelligence. Certes, on nourrit l'intelligence avec la prière, mais il faut aussi nourrir l'intelligence avec l'étude. Beaucoup de gens me disent, j'ai pas le temps, mais quand on voit le temps qui passe, par exemple, à écouter la radio, par exemple, dans la voiture, dans le travail et en revenant, eh bien, au lieu d'écouter la radio, en général, la plupart des voitures modernes, on peut brancher une petite clé USB ou faire un petit bricolage pour pouvoir brancher une petite prise USB. Dans la clé informatique, ben, vous téléchargez des sermons ou le cours de catéchisme, et puis vous l'écoutez. Moi, je le fais. Dans ma voiture, dans mon bureau, je perds tellement de temps en voiture, je fais 60 et 70 000 km par an à peu près, hein, et je passe énormément de temps en voiture, eh bien, je réécoute mes cours pour m'imprégner justement la doctrine de l'Église, j'ai réécouté tous les cours de saint Thomas d'Aquin, j'ai réécouté toutes les conférences d'exégèse, j'ai réécouté tous les cours de catéchisme, j'en ai besoin. Eh bien, je pense que les fidèles en ont aussi besoin, donc obligez-vous à travailler. Pour saint Jean Chrysostome et saint Ambroise, le mûrier représente, on retrouve une explication qu'on a déjà donnée, le mûrier représente le démon, qui est chassé, renvoyé en enfer par le Christ. En effet, les fruits de cet arbre sont d'abord blancs, au moment de la floraison, une belle explication de poétique des pères, les fruits de l'arbre sont blancs, au moment de la floraison, puis deviennent rouges, et enfin, noir à maturité. Bon, voilà le symbole. Mais effectivement, c'est vrai, j'avais remarqué que les mûriers, dans le sud de la France, il y a souvent des mûriers. Sur les places, en général, sur les places des villages en Provence, il y avait souvent des mûriers. Et les fruits du mûrier, espèce de petites grappes, au début sont blanches, puis deviennent rouges, enfin noires. Et le démon, au début, était une fleur blanche de par sa nature angélique. Pourquoi? Parce qu'il est, il était ange. Il est toujours ange. Attention, pas oublier que le démon est toujours un ange. Hein. Donc c'est un ange déchu. Au début, il était ange. Il est toujours ange. Il était bon ange. Il est devenu mauvais ange, mais il a gardé sa nature angélique. Donc il était une fleur blanche par sa nature angélique. Il devient rouge à cause de sa malice. Il devient noir. Il devient noir à cause de l'odeur immonde du péché. Donc il était blanc au ciel. lorsqu'il a accepté de se comparer à Dieu, quand il a commencé à tenter de dire je ne servirai pas avec Lucifer, il est devenu rouge à cause de sa malice. Cette malice représente le péché qui rentre dans l'ange, et à ce moment-là, il va changer de couleur, va devenir noir comme du charbon, et c'est la chute en enfer. Donc nous aussi, il y a une belle comparaison pour nous. Nous aussi, nous sommes blancs par le baptême. Le jour de notre baptême, nous avons été revêtus d'une petite robe blanche pour les bébés, une robe blanche pour les adultes, justement pour bien nous montrer la pureté de l'âme qui vient de retrouver la foi, l'espérance et la charité. Si je commets un péché mortel, malheureusement, littéralement, je profane le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donc je viens tout rouge, dans le sens que je deviens malicieux avec le péché, et puis une fois que j'ai commis le péché, eh bien, une fois que le péché est commis, eh bien, malheureusement, je deviens noir, noir comme le charbon, noir comme le péché, noir comme le démon. Et lorsque je me reconfesse, avec la grâce du bon Dieu, que je retrouve la paix du bon Dieu, qu'un acte de contrition parfaite, ou avec une bonne confession, bien je rechange de couleur pour redevenir blanc. Donc à moi de garder l'innocence du baptême. Malheureusement, les gens qui ont pu garder la couleur blanche de leur robe baptismale est infiniment petit. Bon, il y a très très peu de gens qui n'ont jamais commis un péché. Oui, les enfants qui meurent juste après le baptême, eux, ils rentrent dans l'innocence, c'est la voie d'innocence pour eux. Malheureusement, les gens qui n'ont jamais commis un péché mortel, il y en a eu certainement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a certainement jamais perdu l'innocence de son baptême. Il y a certains grands saints, certaines grandes saintes qui ont reçu des révélations spéciales du bon Dieu qui leur ont affirmé qu'ils n'ont jamais commis un péché mortel. Très bien, Deo gratias, mais enfin, c'est malheureusement une extrême minorité. La plupart d'entre nous, moi le premier, on a vite fait de perdre l'état de grâce par le péché mortel, d'où l'importance de la confession régulière. Donc j'aime bien cette image des trois couleurs. J'étais blanc, je deviens rouge avant de passer au noir. À moi de reblanchir mon âme par la confession, un acte de charité parfaite. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Le Christ jette dehors donc la légion de démons et leur permet d'entrer dans les ports, lesquels sont entraînés par les mauvais esprits et se précipitent dans la mer. Ça, c'est une allusion à ce qui est arrivé une fois à notre Seigneur Jésus-Christ, donc il y avait dans un cimetière un possédé du démon, bon, lunatique, un possédé du démon qui vivait dans les tombes, possédé par le démon, le bon Dieu a eu pitié de lui, notre Seigneur a eu pitié de lui, a chassé le démon de l'âme de cet homme, le démon n'a pas voulu partir tout de suite, a supplié Dieu de l'envoyer dans un troupeau de cochons, de porcs qui paissaient à côté du cimetière, de l'endroit où vivait ce malheureux. Et mon Dieu a accepté, et donc a envoyé le démon ou les démons dans ces cochons qui ont été possédés par le démon, immédiatement sont précipités dans la mer, sont tous morts noyés. Eh bien, c'est le symbole du péché, encore une belle image, hein. Ici, le Christ jette dehors la légion de démons et leur permet d'entrer dans les ports, lesquels sont entraînés par les esprits mauvais et se précipitent dans la mer. Donc, le mûrier, si vous voulez, représente ça. Donc, c'est ça que pour beaucoup de pères, ce mûrier représente le démon. Ça dépend un petit peu des interprétations. Arracher ce mûrier, le jeter à la mer, et enlever le péché de mon âme et retrouver la grâce de la charité. Donc nous avançons, on est à la page 8, versets 7, 8, 9 et 10, chapitre 17 de Saint Luc. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, fait paître les troupeaux, lui dit, lorsqu'il revient des champs, approchez-vous vite, mettez-vous à table. Ne lui dira-t-il pas, préparez-moi un souper, saignez-vous et servez-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, vous mangerez et vous boirez. A-t-il de la reconnaissance pour ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Je ne le pense pas. Et vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pas oublier cette parole bien forte de notre Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles. Sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas un seul péché qu'a fait le voisin que je ne suis pas capable de faire. Voyons un petit peu le commentaire des pères de ces versets. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et si nous faisons ce qu'il nous demande et lui offrons nos œuvres, nous mériterons la vie éternelle, comme le serviteur qui a travaillé toute la journée mérite son salaire. Donc nous serons jugés en fonction de nos réponses à la grâce du bon Dieu. Si j'étais un bon serviteur, même un serviteur inutile, ça veut dire serviteur inutile. Ça veut dire que, humainement parlant, je n'ai peut-être pas fait grand-chose. J'ai fait ce qui m'était demandé. J'aime bien comparer, utiliser cette comparaison qui vient de Sainte Bernadette. Sainte Bernadette disait que on est comme un balai. Et le balai est conservé dans le placard, dans le noir, et la poussière et les araignées. Alors on ne sert à rien, on a l'impression qu'on perd son temps parce qu'on est dans le placard, on voudrait bien voir la lumière, il n'y a pas de lumière, on va dans un endroit propre, c'est sale, et on n'aime pas les araignées, il y a plein d'araignées. Mais on est là, voilà. Et puis de temps en temps, ben, le bon Dieu, il a besoin du balai. Alors, il ouvre la porte du placard, il prend le balai, il balaye. Alors, on est tout content parce qu'on sert à quelque chose. Et le bon Dieu va nous utiliser pour balayer la maison ou l'appartement, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini, il a fait ce qu'il devait faire avec le balai, il remet le balai dans le placard. Bon, et bien c'est notre vie, il faut être là. Et le jour où le bon Dieu a prévenu qu'il viendrait sans prévenir, hein, comme un voleur au milieu de la nuit, et bien quand il vient, il faut que le balai soit là. Bon, à partir du moment où je suis un serviteur inutile, mais que je reste dans le placard, et que je suis à la disposition du bon Dieu qui peut venir quand il veut, vous pouvez venir quand vous voulez, mon Dieu, je suis prêt à vous servir, alors je suis peut-être un serviteur inutile, mais c'est ce genre de serviteur que le bon Dieu peut utiliser, parce que justement parce qu'il se croit inutile, à ce moment-là, il peut devenir l'instrument du bon Dieu. Le serviteur qui, au contraire, est plein de lui-même, eh bien, il ne va pas pouvoir être utilisé comme un instrument par le bon Dieu, parce qu'il compte beaucoup trop sur ses propres forces, et pas assez sur la toute-puissance de Dieu. Donc, à partir du moment où j'ai rempli ma fonction de serviteur, même si je suis inutile parce que j'ai l'impression que je ne sers pas à grand-chose, je mérite mon salaire. Le salaire, c'est le salaire du denier en fin de journée, c'est-à-dire le salut. Bien que nos travaux soient de peu de valeur, disent les pères, ou sans valeur, en tant qu'ils sont les fruits de la grâce du Christ, ils deviennent les œuvres du Christ, notre chef, et prennent alors une grande valeur qui nous méritera la gloire éternelle. C'est-à-dire, je m'incorpore à Dieu en faisant sa volonté. Oui. Et c'est souvent le cas, j'ai remarqué, pour les personnes âgées. Il arrive souvent, quand les personnes âgées sont un peu découragées, parce que le corps commence à se ralentir très sérieusement, parfois des vieilles grand-mères qui me disent, Monsieur l'abbé, j'ai l'impression que je ne sers plus à rien, je ne peux plus rien faire, je suis à moitié impotente, je ne peux plus rien faire, alors j'essaie d'aider un peu la famille dans laquelle je suis, mes enfants, mes petits-enfants, mais je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux plus monter les escaliers, j'ai mal partout, j'ai des rhumatismes articulaires partout, je fais de l'arthrose partout, je ne peux pas faire grand-chose, je ne sers plus rien. Et le bon Dieu ne me prend pas, alors j'ai 90 ans ou 95 ans, je voudrais partir, et puis le bon Dieu me laisse là. Mais madame, vous ne perdez pas votre temps. Est-ce que le bon Dieu sert de vous? Qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Eh bien, vous allez dire, je suis le serviteur inutile. Mon Dieu, je suis là, faites de moi ce que vous voulez. Si vous voulez m'utiliser pour la conversion de la moitié de l'humanité, très bien. Si vous voulez m'utiliser pour la conversion d'une seule personne, très bien. Si vous voulez m'utiliser pour la conversion de personne, très bien aussi. Vous voyez? Et je dis à ces femmes, ces personnes âgées, vous ne perdez pas votre temps à partir du moment où vous êtes en état de grâce et vous remplissez votre devoir d'état, eh bien, vous plaisez au bon Dieu et vous pouvez faire du bien. Le bon Dieu va pouvoir vous utiliser comme un instrument pour faire du bien autour de vous. Qu'est-ce qu'il vous demande, le bon Dieu, le jour de votre mort? Il vous demande, est-ce que vous êtes en état de grâce? Vous êtes en état de grâce, vous avez rempli votre contrat avec le bon Dieu. Mais il ne faut pas vous inquiéter, même si vous avez l'impression de ne servir à rien. Vous êtes en état de grâce. Si vous êtes en état de grâce, vous servez à quelque chose. C'est vrai, quelque chose. Vous êtes une des pierres que le bon Dieu va utiliser pour construire son temple. C'est ça l'état de grâce. Et donc, il faut que ces personnes qui ont l'impression qu'elles ne font plus grand-chose à cause de leur âge ou de leur arthrose, eh bien, si elles sont là devant le bon Dieu et disent au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite, je suis à votre disposition, prenez-moi, faites de moi ce que vous voulez, eh bien, ils remplissent leur fonction, ils remplissent leur devoir d'état, ils remplissent leur contrat avec Dieu. J'ai connu des femmes comme ça, des vieilles grand-mères par exemple, qui étaient incapables de faire quoi que ce soit, mais elles étaient là. Et puis tous les matins, elles offraient au bon Dieu, « Mon Dieu, je vous offre mes misères d'aujourd'hui, je vais encore avoir bien mal aux articulations, mais je vous l'offre par avance, et puis je vais pas pouvoir faire grand-chose, peut-être un peu m'énerver parce que j'arrive plus à faire les choses, et bien voilà. » Et puis j'ai connu les vieilles grand-mères qui passaient leur vie, leur journée, très âgées, simplement à prier le chapelet. C'est tout ce qu'elles faisaient, prier le chapelet pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et c'est qu'au ciel qu'on se rendra compte le travail qu'ont fait ces vieilles grand-mères, ces vieux grands-parents qui ont prié pour leurs enfants. Prier pour leurs petits-enfants. Comme disent parfois ces personnes, je prie pour mes enfants. Je sais que j'ai eu des enfants, le bon Dieu m'en a donné 5 ou 6, et puis, je sais qu'il y en a un qui tient bien la route sur le plan spirituel, il y en a un ou deux, monsieur l'abbé, ils ont un peu tout envoyé promener, je prie pour eux. Et puis mes petits-enfants, monsieur l'abbé, c'est une catastrophe. Mes petits-enfants, il y en a pas un ou deux, ils ont tous envoyé promener tout, ils ont plus la foi, ils ont perdu la foi. Je prie pour eux. Eh bien, vous pouvez sauver ces enfants! Parce que le bon Dieu ne le laisse pas un verre d'eau donné par un pauvre sans récompense. Donc, vous croyez qu'il va oublier tous ces chapelets qui ont été dits? Voilà. Et j'ai connu des personnes très âgées comme ça qui se plaignaient jamais. Ils étaient là, c'est tout. Hein? Pour ça, occupez-vous de vos vieux parents. Vous ne pouvez pas savoir le bien qu'elles peuvent faire. Vos vieux parents, ne les mettez pas dans un mouroir, en EHPAD quelque part. Quand vous pouvez, prenez-les chez vous, essayez de leur donner tout l'amour que vous pouvez leur donner, leur rendre tout ce qu'ils vous ont donné, et c'est des paratonnerres pour les familles. Hein. Une vieille grand-mère dans une maison, même si c'est parfois très lourd physiquement, ou matériellement, c'est le paratonnerre pour la famille, tout ce qu'elle fait, elle prie, c'est tout ce qu'elle fait, elle prie. Oui. Et ça m'avait beaucoup frappé dans des pays qu'on considère comme des pays en voie de développement, voire même des pays très très pauvres, ils ne viendraient pas à l'idée, dans certains pays, ils ne viendraient pas à l'idée d'un père de famille, d'une mère de famille, d'envoyer ses vieux parents dans un EHPAD, hein, ou l'équivalent. On les garde à la maison. Hein, et ils restent à la maison et on les aide. J'ai vu ça même dans les pays très très pauvres. Ça m'avait frappé par exemple au Népal. Je connais un petit peu le Népal. Je n'ai jamais missionné au Népal, mais je connais un peu le Népal. Et un pays bouddhiste donc. Eh bien, ça m'avait frappé dans les hautes vallées du Népal. Les personnes très âgées, ben, c'était là. Même parfois complètement aveugles, elles avaient 90 ans parce qu'ils vivent très longtemps là-bas. 90, 95 ans, elles étaient là dans la maison. Puis elle fait des petits trucs, souvent ça consistait, même à moitié aveugle, j'ai vu des aveugles, par exemple, de 90 ans, eh bien, payant où il y a de l'herbe, eh bien, elles étaient dans les champs, accroupies dans le champ, et puis, même sans voir grand-chose, eh bien, elles arrachaient l'herbe, elles en faisaient des bottes, puis on utilisait ça pour le fourrage, pour les animaux, vous voyez. Donc, dans toute la mesure du possible, gardez vos vieux parents chez vous, Rappelez-vous la promesse du bon Dieu, tes pères et mères honorera afin de vivre longuement. Vous voyez, c'est une mentalité moderne de vouloir se débarrasser des vieux parents. On les met en EHPAD, on les met en mouroir. Aïe, 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 quelle catastrophe. J'ai vu tellement de misère dans ces EHPAD. J'ai très souvent dû porter en tant que prêtre la communion des vieillards dans les EHPAD qui étaient devenus des mouroirs. Quelle catastrophe! J'ai connu des gens qui étaient dans des chambres comme ça, qui pouvaient pratiquement plus se déplacer, qui avaient 80, 90 ans. Ils étaient veufs, et puis, personne venait les voir. Il y avait bien des gens de la maison qui travaillaient sur place, qui venaient les voir de temps en temps, mais une fois par jour, mais c'était vraiment en coup de vent, parce qu'il n'y avait pas de temps. Et le pauvre infirmier, le pauvre auxiliaire de vie, elle avait 60 personnes à voir, elle n'avait pas le temps, il fallait qu'elle fasse la toilette de 60 personnes tous les matins, elle n'avait pas le temps de parler avec les gens. Et puis, j'en ai pleuré plusieurs fois, je dis, mais vous n'avez pas des enfants qui s'occupent un petit peu de vous? Ah ben oui, j'ai un garçon qui est marié dans la ville, là, il habite à 5 km de là, il vient jamais vous voir, bon non, il dit qu'il n'a pas le temps. De temps en temps, il téléphone. Mais attendez, vous avez un enfant qui est marié, qui vit à 4 km de l'endroit où vous êtes, il ne vient jamais vous voir? Oh non, il n'a pas le temps, puis vous savez, il est marié, il a sa femme, il a ses enfants, bon, il a son boulot, et puis il est avec ses copains, ses amis, et puis il n'a pas le temps. Il n'a plus le temps de s'occuper de sa vieille maman. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel jugement pour ces gens-là. Alors que vous avez reçu la vie de vos parents, et souvent la vie surnaturelle, attention. La foi catholique, c'est parce que vos parents vous l'ont donné, en général, il y a eu des conversions, mais souvent c'est, ça vient des parents, donc attention, attention. Continuons avec les commentaires des pères. La grâce est une semence de gloire parce que Dieu, dans sa bonté sans limite, nous a promis que ses travaux faits avec sa grâce nous vendront cette récompense éternelle. N'oublions pas que tous nos actes, même les plus infimes, faits en état de grâce, peuvent nous acquérir des mérites éternels. Tant que je suis en état de grâce, je suis en état de charité, j'acquiers des mérites éternels. Des mérites éternels. Et donc, ça s'ajoute. Et mon âme devient de plus en plus lourde dans la balance du bon Dieu, dans la balance du bien. Mais si j'ai le malheur de commettre un péché mortel, n'oublions pas que je vais perdre d'un seul coup, à l'instant même où je commets un péché mortel, je perds immédiatement tous les mérites que j'avais emmagasinés. Tous. Ils disparaissent tous. Ils vont revenir après une bonne confession, au moins en partie. Pas forcément au même degré où ils étaient avant, attention. Sauf si c'est vraiment une très bonne confession. Et même dans certains cas, si la personne, par exemple, fait une bonne confession générale, on voit sa retraite. Les gens sont préparés à la confession pendant deux jours et demi, ils font une bonne confession générale, ils vont non seulement récupérer tous les mérites qu'ils avaient acquis pendant les mois précédents, ou les années précédentes, ils vont même augmenter les mérites acquis parce qu'ils font une confession avec un grand degré. Ils finissent avec un grand degré de charité. Donc, les travaux nous acquérons une récompense éternelle, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Même si nous sommes des serviteurs inutiles, tant que nous sommes en ce monde, nous devons travailler sans cesse. Reconnaissons donc que nous ne sommes que des serviteurs. Ne nous exaltons pas indûment sous prétexte que nous sommes des enfants de Dieu. Attention à l'orgueil. Combien de fois j'ai entendu des jeunes, surtout, un peu plein d'eux-mêmes, me dire, monsieur l'abbé, moi j'ai une foi solide, pas de problème, je ne perdrai jamais la foi. Oh là là. Ils me font penser à Saint-Pierre. Il me faisait penser à Saint-Pierre, ce que je leur disais d'ailleurs, oui, je connais quelqu'un qui avait dit, Seigneur, même si tous vous trahissent, moi je ne vous trahirai pas. Et notre Seigneur Jésus-Christ le dit à Saint-Pierre avant que le coq n'ait chanté deux fois, tu m'auras trahi trois fois. Et c'est ce qui s'est passé, le grand Saint-Pierre, trois fois, il a eu peur d'une petite servante qu'il avait reconnue, Jean-Anselme des Oliviers, et trois fois il va dire, je ne connais pas cet homme. Maintenons-nous dans l'humilité, mes bien chers frères. Faut pas dire, ah, mais j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup prié, j'ai fait trois ou quatre retraites, donc il n'y a pas de problème, je ne perdrai pas la foi. Ah, attendez. Ce n'est grâce par la grâce du bon Dieu que vous gardez la foi. C'est par la grâce du bon Dieu que je garde la foi. Et si le bon Dieu m'oublie pendant quelques secondes, je tombe dans, je peux tout abandonner. Rappelez-vous cette belle phrase de Saint Alphonse Ligueri, Saint-Pierre d'Alcantara, ou l'autre saint, j'ai oublié son nom là, j'ai plus son nom au bout de la langue, qui disait aux pierres, Saint-Philippe Néri, voilà. Saint-Philippe Néri disait, oh mon Dieu, gardez Philippe entre vos mains pendant toute cette journée, parce que sans votre grâce, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire musulman, mohammedan ou juif. Hein. Sans la grâce du bon Dieu, quand on voit autour de nous toutes ces familles qui étaient fortes dans la foi il y a encore 30, 40, 50 ans maintenant, ils ont tout abandonné. La France est devenue une gigantesque poubelle parce que tous ces gens qui avaient la foi l'ont abandonné, l'ont perdu. Donc maintenons-nous dans l'humilité. C'est par l'humilité qu'on se garde en état de grâce. C'est le bon Dieu qui nous garde en état de grâce, c'est pas nous. Hein. Si je meurs en état de grâce, c'est par la grâce du bon Dieu. Hein. Par contre, si je tombe en enfer, c'est ma faute. Ça, c'est moi qui suis responsable. Mais est-ce qu'il est possible de garder l'état de grâce sans la grâce du bon Dieu? Non, impossible. Est-ce qu'il est possible de rester en état de grâce pendant longtemps sans la grâce du bon Dieu? Non, impossible. Donc il faut se maintenir dans l'humilité. Mais le meilleur des moyens pour faire sortir la grâce sanctifiante de notre âme, c'est l'orgueil. Le bon Dieu ne peut pas supporter l'orgueil. C'est ça que les péchés d'orgueil sont les péchés les plus graves. Ils font plus de dégâts dans nos âmes. Ne nous exaltons donc pas indûment sous prétexte que nous sommes les enfants de Dieu. Ne nous exaltons pas indûment sous prétexte que nous sommes traditionnalistes. Ne nous exaltons pas indûment sous prétexte que nous avons compris ce qui se passe dans l'Église. J'ai entendu parfois des gens qui me disent, ah, vous savez, moi j'ai bien compris, j'ai tout compris. Bergoglio, c'est vraiment le dernier des derniers. C'est l'église de Vatican II, ça n'a rien à voir avec l'église catholique, c'est vrai. Mais vous ne tressez pas votre couronne de laurier. Hein. Et parfois j'entends ces mêmes personnes mépriser à haut le curé là, il est complètement, complètement moderniste. Et puis les gens autour de moi, c'est tous des modernistes, ils ont tous perdu la foi. Mais moi, j'ai gardé la foi. Ah oui. Vous risquez de tomber encore plus bas qu'eux, sans la grâce du bon Dieu. Attention. La grâce est puissante, mais ne détruit pas la nature. Un grand axiome de saint Thomas d'Aquin. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. La grâce pour travailler a besoin de la nature. L'hélicoptère pour atterrir a besoin au moins d'une certaine surface pour pouvoir atterrir. Tu n'en peux rien faire. Il peut rester au-dessus de vous, mais il ne peut rien faire, il ne peut pas vous sauver, parce qu'il n'y a pas, y a pas de place pour atterrir. Donc la grâce ne détruit pas la nature. Elle est toute puissante, mais ne détruit pas la nature. Donc les vertus naturelles sont importantes, attention. Et s'il n'y a pas ces vertus naturelles, souvent la grâce ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas les vertus naturelles qui sont là. Les vertus naturelles peuvent amener à la vertu surnaturelle. Attention, vous pouvez mettre toutes les vertus naturelles que vous voulez dans une âme, ça ne vaut pas une once de vertus surnaturelles, mais ça amène aux vertus surnaturelles. Ça peut préparer aux vertus surnaturelles. Pour ça que certaines vertus naturelles, comme la probité, l'honnêteté, j'ai connu même des familles païennes, par exemple, qui apprenaient à leurs enfants à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tuer. Il y avait la loi naturelle qui était encore là. Eh bien, il y avait une porte d'entrée pour que la grâce de Dieu puisse rentrer. Et c'est là le drame. C'est qu'aujourd'hui, ces vertus naturelles n'existent plus. Comme elle n'existe plus, ben la grâce ne peut plus travailler. La grâce est toute puissante, mais elle ne détruit pas la nature, elle l'élève. Donc ne nous vantons pas de ce que nous faisons, car ce n'est là que notre devoir. Le soleil obéit, la lune se soumet, les anges se servent, et moi je me révolte contre Dieu. Rappelez-vous la phrase de Saint Rémy à Clovis, la nuit de Noël 496. « Courbe la tête fière, sicambre, Dieu sait si... » Les barbares, Clovis était un barbare avant sa conversion, les barbares étaient orgueilleux, courbe la tête, fier sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Nous ne sommes donc, dit Saint Bède, que de serviteurs inutiles, car nous ne faisons que notre devoir. Il faut nous retirer dans notre conscience pour réfléchir en nous-mêmes sur nos paroles et nos actions. Demandons la grâce de la vertu d'humilité. La grâce de la vertu d'humilité, malheur à celui qui se croit suffisamment fort pour se conserver en état de grâce par ses propres forces. Attention, je conseille à ceux qui ont un petit peu de temps de réécouter sur le site internet, vous avez les commentaires que j'ai fait sur le traité sur la grâce de saint Thomas d'Aquin. Et il y a des choses magnifiques sur ce traité sur la grâce, donc je vous conseille de réécouter un petit peu les commentaires que j'ai pu faire à partir de la Somme Théologique de saint Thomas, le traité sur la grâce, qui est magnifique. Dans la Somme Théologique, c'est dans la prima secundae, première partie de la seconde partie, les questions 109 à 114 sur la grâce. Il y a... Vous n'avez pas le temps de tout lire, relisez au moins les parties importantes. Vous voyez. Saint Thomas d'Aquin va poser toute une série de questions sur la grâce. Et en lisant ce magnifique traité de la Somme, qui est certainement les plus beaux traités, je suis sûr que ça nous maintient dans l'humilité. On voit certaines phrases de saint Thomas d'Aquin, il reprend les pères d'ailleurs, sans la grâce, que ce soit en pensée, en vouloir, en amour ou en action, les hommes ne font absolument aucun bien, saint Augustin. Saint Thomas précise, dans l'état de nature corrompue, c'est la nôtre aujourd'hui, l'homme est impuissant même en ce qui regarde sa nature, et il ne peut, par ses seules forces naturelles, accomplir tout le bien qui lui est proportionné. Et l'homme peut, bien sûr, par ses seules forces naturelles, aimer Dieu plus que lui-même et par-dessus tout, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. L'homme ne peut pas sans la grâce observer tous les commandements de Dieu, sinon on tombe dans le pélagianisme. Dieu, dit saint Thomas d'Aquin, je reprends un peu certains passages hein, qui sont magnifiques pour nous maintenir dans l'humilité, tous, moi le premier, que la grâce de Dieu, dit saint Thomas, nous conduit à la vie éternelle, mais c'est par sa miséricorde. Hein. Donc Dieu, dit saint Thomas, ne peut même pas se préparer à la grâce sans le secours de la grâce, sinon c'est du semi-pélagianisme. On a besoin du bon Dieu pour tout. L'homme ne peut pas par lui-même être justifié, c'est-à-dire il ne peut pas, dit saint Thomas, passer de l'état de péché à l'état de justice sans la grâce du bon Dieu. Il ne peut pas se relever du péché sans la grâce du bon Dieu, c'est absolument impossible. Hein? Donc, saint Thomas explique que dans cet état de nature corrompue qui est le nôtre maintenant, l'homme, pour s'abstenir entièrement du péché, a besoin que la grâce de Dieu vienne guérir sa nature. Donc il n'est pas possible pour nous, sans la grâce du bon Dieu, de rester longtemps sans péché mortel. Hein. L'homme en état de grâce a donc besoin, pour bien vivre dans la rectitude, d'un autre secours de grâce. On est entièrement entre les mains du bon Dieu. Donc l'homme en état de grâce a besoin que la persévérance lui soit accordée par Dieu pour persévérer dans le bien, sinon on ne peut rien faire. Et maintenons-nous dans l'humilité, mes bien chers frères. C'est tout ce texte des pères de l'Église, ces textes magnifiques de nous aider à comprendre que sans la grâce du bon Dieu, on ne peut absolument rien faire. Je pense que c'est une des raisons de l'écroulement que nous avons vu dans l'Église de Vatican II. Sans la grâce du bon Dieu, on ne peut absolument rien faire. Donc maintenant nous, dans l'humilité tous, bien sûr, répétez souvent cette formule, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, car nous ne faisons que notre devoir. Il faut donc nous retirer dans notre conscience pour réfléchir en nous-mêmes sur nos paroles et sur nos actions. Voilà, donc je vais arrêter là, ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Et avec la grâce du bon Dieu, nous aurons encore un cours pour la semaine prochaine. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.